Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on explore la mobilité au Québec avec comme guide le chapitre « Regards sur la mobilité » d'un document de 2025. On a des extraits qui touchent à tout. Le contexte général, des projets précis comme le tramway, le REM, la place de l'auto, les défis du transport collectif. Notre but, voir les enjeux clés, les tensions aussi. D'ailleurs, pour commencer, un chiffre qui m'a sauté aux yeux. Malgré plus de monde au Québec, les départs d'autocars interurbains ont chuté de 85 % depuis 1981. Ça lance la discussion, non?
Absolument. Puis ça illustre bien une certaine complexité. Le document, justement, y met le doigt sur une tension fondamentale dès le début. On ne sait pas souvent l'aménagement du territoire puis la mobilité. Fait que ça mène à des drôles de situations, là. Comme vouloir électrifier des camions lourds pour des gars tout seuls qui font 20 km. On repense pas le besoin du trajet lui-même, tu sais.
Calage, le texte, il parle aussi de la loi fondamentale de la congestion. En gros, t'ajoutes des voies, puis ça retire juste plus de taux. Les gains s'annulent.
C'est ça.
Même l'espace que le transport en commun pourrait libérer, hop, d'autres autos le prennent. C'est comme un serpent qui se mord la queue.
Exactement. Puis ça nous amène à la question, est-ce qu'on gère l'offre ou la demande? Pour l'offre, le document suggère que la seule chose qui marche vraiment, c'est de réduire la capacité routière. Côté demande, on parle de télétravail ou même de co-fiscalité. Fait qu'utiliser les taxes pour changer les habitudes, pas juste pour l'argent.
Et justement, l'argent, ça semble être un gros morceau. Le document montre un déséquilibre assez flagrant dans le plan québécois des infrastructures, le PQI, sur 10 ans. 34,5 milliards pour les routes, puis 85 % de ça, c'est juste pour l'entretien, contre seulement 13,8 milliards pour le transport en commun, un chiffre qui, lui, n'a pas bougé.
Ben oui, ce sous-financement chronique, c'est un thème récurrent. Puis c'est lié directement, d'après le document, à l'échec des cibles de la politique de mobilité durable 2030. Non seulement on n'a pas réduit les GES, les émissions de gaz à effet de serre, mais celles du transport ont même augmenté. De 27,2 mégatonnes en 2018 à 32, c'est pas rien.
Le manque d'investissement dans les alternatives, ça a des conséquences claires.
Effectivement.
Puis quand on regarde les grands projets, c'est pas simple non plus, hein? Le tramway de Québec, par exemple, on en parle depuis 2003. L'année 2023 a été, disons, mouvementée. Les coûts qui dépassent 4 milliards, des tensions politiques, puis finalement, c'est la Caisse de dépôt, CDPQ Infra, qui reprend le dossier.
Oui, puis le texte fait le parallèle avec le REM à Montréal. Lui aussi, c'est raté, là. 87 pannes de plus de 20 minutes depuis le début. Puis les coûts, ouf, de 6,3 milliards à presque 8 milliards.
Quand même, hein?
Pourtant, l'international y est quand même vu comme moins cher que d'autres projets du genre en Amérique du Nord. C'est particulier. Le texte donne d'ailleurs 5 raisons qui reviennent tout le temps pour expliquer pourquoi les coûts explosent ici. On annonce trop vite, la planification est faible, on change d'idée en cours de route, les expropriations, c'est compliqué, puis on sous-estime l'inflation, là.
C'est un pattern, on dirait. Et pendant ce temps-là, l'auto, elle est partout. Le parc automobile grossit, les VUS sont dominants, ce qui, soit dit en passant, augmente de 55 % la gravité des blessures si un cycliste est frappé.
C'est énorme.
Puis les impacts sur la santé, on parle de 900 millions par an. Fait intéressant, soulevé dans le texte, on pense souvent payer cher l'essence, mais en fait, le Québec taxe moins que la moyenne des pays de l'OCDE.
Oui, c'est un peu contre-intuitif. Le texte rapporte aussi des anecdotes assez parlantes sur l'innovation ou son absence des fois. Comme l'étudiant qui code un petit logiciel pour recharger la carte opus en ligne, puis qui doit l'enlever.
Ah oui.
Ou un autre qui améliore bénévolement la signalisation du REM à la gare centrale, parce qu'elle n'était pas claire. Ça montre une certaine lenteur des institutions face à des solutions simples, tu sais.
C'est fou quand même. Un autre point qui est mentionné, c'est la valorisation immobilière autour des transports collectifs. Le projet de loi 61 permet ça.
Oui, la capture de la valeur foncière.
C'est vu comme une façon de générer des revenus, mais ça pose la question, à qui profite vraiment la construction près des stations?
C'est une excellente question, tout à fait. Si on essaie de résumer un peu tout ça, le portrait de la mobilité au Québec, c'est complexe. On jongle entre des objectifs environnementaux ambitieux, une culture de l'auto qui est très, très forte, des infrastructures qui vieillissent, des guerres de financement... puis une planification qui peine à tout arrimer ensemble.
C'est ça. Des solutions comme l'écofiscalité ou mieux intégrer l'urbanisme et le transport, elles existent, elles sont sur la table, mais les mettre en œuvre, c'est une autre paire de manches.
Oui. Puis pour conclure, il y a une réflexion de Pierre-Olivier Pinault, citée dans le document, qui est fascinante. C'est à propos du fameux troisième lien Québec-Lévis. Il suggère que peu importe si le projet est bon ou pas, il est peut-être un symptôme.
Un symptôme de quoi?
Bien, de notre désir collectif pour des infrastructures immenses qui, au fond, répondent surtout à des besoins individuels. Une grosse infrastructure pour régler mon problème à moi, tu sais.
Ah, ça donne matière à réflexion. Quels sont les besoins réels, les besoins profonds qu'on cherche à combler avec ces grands projets de mobilité? C'est sur cette question qu'on va terminer cette analyse. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.